Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'aime bien dire bonjour. Comme d'habitude, j'aime bien les titres un peu provocateurs. Et aujourd'hui, la question que j'aimerais qu'on se pose et que je vais vous poser, c'est quel bandit êtes-vous? Et quel bandit je suis? La semaine dernière, Vance nous a exhortés sur le péché, ou plutôt contre le péché. Il a distingué plusieurs types de pécheurs. Et pour ceux qui étaient là, alors j'ai remarqué en fait qu'il n'était pas sur le site puisqu'il était encore sur mon téléphone. Vous pourrez l'écouter sur le site internet, mais vous avez pu vous reconnaître dans plusieurs types de pécheurs. Et Vance nous a décrit 5 types de pécheurs. S'il veut bien. Ça devrait marcher. Ok. Donc les 5 types de pécheurs. Alors, donc le premier pécheur, c'était le pécheur public. Et le pécheur public, il nous expliquait que c'était tout le monde sait ce qu'il fait. Il avait pris en exemple, par exemple, les prostituées qu'on trouvait dans la rue ou les personnes qui étaient saoules et qui déambulaient. Pour certains d'entre nous, on en a vu un hier soir devant l'église. C'était quelque chose de particulier. Donc il y avait le pécheur public. Le pécheur privé, lui, c'est totalement l'inverse. C'est celui dont le péché est caché et qui ne le montre à personne, mais le résultat reste le même. Il reste un pécheur. En troisième, il y a le pécheur qui s'ignore. L'exemple de Paul, par exemple, qui pensait faire le bien en martyrisant les chrétiens. Mais en fait, non, il était totalement dans l'erreur. Et c'était un pécheur qui ignorait le mal qu'il faisait. Et c'est le cas aujourd'hui de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. En quatrième, il y avait le pécheur volontaire, ou dit impénitent, ceux qui pêchent après avoir connu la vérité. Ils savent ce qu'ils font et, en toute connaissance de cause, continuent à pécher, malgré le fait qu'ils connaissent la volonté de Dieu pour leur vie. Et le dernier type de pécheur, c'est le pécheur pardonné. Le pécheur pardonné, c'est celui qui a été justifié en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est fait pécher par la grâce de Dieu, mais qui a accepté le pardon de Dieu. Voilà le pécheur pardonné, et j'espère que vous faites partie de ce type de pécheur, le pécheur pardonné. En tout cas, vous êtes obligatoirement dans une de ces catégories de pécheurs. Dans laquelle de ces catégories vous trouvez-vous aujourd'hui? Si vous n'avez pas encore décidé de renoncer au péché qui vous enferme et qui vous écrase, qu'attendez-vous pour demander à Christ sa délivrance? La mauvaise nouvelle, vous la savez déjà. En Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Quelle que soit l'opinion que nous avons de nous-mêmes, quelle que soit la nature de nos actions, nous sommes tous des pécheurs. En Proverbes chapitre 6, au verset 16 à 19, je lisais cette semaine cette chose que hait le Seigneur. Slide, du coup. Donc la première chose que hait le Seigneur, ce sont les yeux hautains. Les yeux hautains, alors on peut penser que c'est la personne qui va voir uniquement les autres comme inférieurs à elle-même. Mais ça va peut-être un peu plus loin. Ça va peut-être aussi être la personne qui va dire « Mais de quel droit celui-là ou celle-là va-t-il me faire va me donner des leçons ?» Ou un dimanche va entendre un message qui le bouscule et va dire « Mais je n'ai pas de leçons à recevoir. » Là se trouve les yeux hautains. La deuxième chose, c'est la langue menteuse. Alors, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Celui qui ment, mais également celui qui cache la vérité. Dieu a cela en horreur. La troisième catégorie, les mains qui répandent le sang. Alors là, c'est également clair, il s'agit de ceux qui commettent des meurtres, mais également la volonté de s'en prendre à quelqu'un. Quatrième, le cœur qui médite des projets iniques. Alors ça peut être la jalousie, ça peut être la convoitise, toutes ces choses. Et Jésus a dit que celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà péché dans son cœur. Notre catégorie, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Ah, le faux témoin qui dit des mensonges, effectivement. Ouais. Le faux témoin qui dit des mensonges. Ici également, c'est assez clair. Autre catégorie, les pieds qui se hâtent pour courir au mal. En quelle compagnie aimons-nous être ? Aimons-nous être avec des gens qui parlent de la parole, qui partagent ce que Dieu a fait pour eux ? Ou alors préférons-nous nos amis dans le monde que ces choses n'intéressent pas ? Quelle compagnie cherchons-nous ? Et enfin, celui qui excite des querelles entre les frères. Et c'est aussi vrai dans l'Église aujourd'hui. Chercher des histoires pour rien. Il nous est tous arrivé dans notre vie de faire quelque chose que le Seigneur a en horreur. Cela veut-il dire que nous sommes sans espoir? Et je vais vous donner une réponse qui est évidente. Évidemment que non. En Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Effectivement, la conséquence de nos actions aurait dû être la mort. Mais Jésus a pris sur lui nos fautes et nos péchés. Et notre plus grande bénédiction dans notre vie, c'est le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Vance nous faisait part également d'un conseil. Alors, c'est avant, c'est plutôt. Nous faisait part d'un conseil qu'on lui avait donné lorsque l'on parle du péché dans une exhortation, de ne surtout pas parler de ses propres péchés. Et je pense qu'on lui a donné cet exemple probablement ne pas avoir une mauvaise influence sur l'auditoire. Et donc je vais suivre son conseil, en détournant la vérité, bien évidemment. Quelqu'un que je connais très bien m'a raconté une histoire un peu folle qui lui est arrivée cette semaine. C'était lundi soir, il rentrait du sport après une belle séance de sport. Super séance. En rentrant, il ne pouvait pas attendre de rentrer chez lui pour dire à son pote à quel point la séance était bonne. Et donc, il s'est mis à envoyer des messages pendant qu'il était au volant. Et comme il était tard, il était assez pressé de rentrer chez lui et il a brûlé un feu en voyant qu'il ne barrait la route à personne. Au pire, il y avait une voiture qui était à peu près 100 mètres un peu plus loin. Il continuait de déambuler dans sa voiture. Quand la voiture, qui était à 100 mètres un peu plus loin dans le feu, est arrivée à sa hauteur. Et surprise, c'était une voiture de police banalisée qu'il invitait à se garer sur le bas-côté pour une vérification. Peu fier de lui, le conducteur, cet ami qui est commercial, qui est père de deux filles, coupa le moteur et la radio. Le policier lui demanda son permis et les papiers du véhicule. Les papiers du véhicule étaient bien là, une photocopie. Mais il avait pris la mauvaise habitude de partir sans son permis lorsqu'il allait au sport. À 10 minutes de chez lui quand même. Le policier lui demanda son nom et son prénom. Il se rappela qu'il avait sa carte de groupe sanguin à lui donner. Donc il lui donna. Et après deux vérifications infructueuses avec le poste central, et une attente interminable qui fit remonter sa tension, le conducteur se rappela que l'on confondait souvent son prénom et son nom. Après une dernière vérification, qui cette fois fut fructueuse, le policier lui demanda « Savez-vous pourquoi nous vous arrêtons ?» Le conducteur, prenant son courage à deux mains, avoua l'infraction la moins grave et la moins coûteuse. « Le téléphone, monsieur ?» Et le policier de répondre « En plus, le téléphone !» Mais il y a aussi ce feu rouge que vous avez brûlé. Savez-vous combien cela peut vous coûter ? Un feu rouge brûlé, l'utilisation du téléphone au volant et l'absence du permis de conduire. Plusieurs centaines d'euros. Ne sachant plus quoi dire, il reconnut toutes ses fautes et s'apprêta à payer très cher pour tous ses manquements au code de la route. Et le policier lui rendit les papiers de la voiture et sa carte de groupe sanguin en lui disant « Je vous laisse partir, mais tâchez de ne plus jamais recommencer, monsieur Anderson. » En racontant cette histoire à Jean Simon, il m'a rejoint en disant que j'avais expérimenté à un moindre niveau ce qu'était la grâce. Je ne méritais rien d'autre que 235 euros d'amende et 6 points en moins sur mon permis. Et c'était un sentiment intense de soulagement de ne pas avoir eu à payer quelque chose que j'aurais dû payer. Vous avez peut-être également ce sentiment intense pour un trop-perçu pour les impôts. Ou alors pour la facture de gaz ou d'électricité. Ça n'arrive pas souvent, je dois le reconnaître. Mais avez-vous ce sentiment intense quand vous prenez la Sainte-Seine ? Que ce soit une routine, je ne pense pas que ce soit possible. La routine de la Sainte-Seine, c'est évidemment impossible. Mais vous rendez-vous compte de la portée symbolique de ce moment ? Avez-vous ce sentiment intense de soulagement et de félicité de ne pas avoir à payer ce prix que vous auriez dû payer ? Jésus s'est abaissé. En Philippiens, chapitre 2, versets 7 et 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. À propos de cette croix, Jésus n'était pas seul sur le mont Golgotha. Il n'était pas en très bonne compagnie d'ailleurs. Il était avec deux personnages de mauvaise vie. En Luc 23, au verset 39 à 43, nous lisons. Et c'est Jésus qui est crucifié sur le mont Golgotha. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix, en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es un condamné, pourtant toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Le fait d'être pécheur est le point commun à tous les hommes. Seulement, de notre état de pécheur, on a le choix de chercher la réconciliation avec Dieu ou alors de rejeter son pardon, la vérité et la vie. Alors, il nous reste deux voies. Le brigand qui insulte Jésus, ou alors la voix de ce brigand qui reconnaît son péché dans sa vie. Alors, qui êtes-vous ? Vous êtes déjà à la croix. Vous devez déjà payer pour vos fautes. Qui êtes-vous ? Qui, votre vie dit-elle que vous êtes? Qui, vos choix disent-ils que vous êtes? Quel brigand êtes-vous? Quel bandit êtes-vous? Pour les pécheurs pardonnés parmi lesquels nous sommes, la grâce de Dieu a été manifestée à la croix et elle change nos vies d'une manière profonde. Et ce bandit à la croix, lui, reconnaît 4 points qui changent sa vie et qui changent également nos vies. Le premier, la présence de ce bandit sur cette croix est justifiée. Sa crucifixion n'est que la légitime conséquence des actions mauvaises de sa vie. Et c'est une prophétie d'Ésaïe 53 qui s'accomplit en disant de Jésus qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et il est ce malfaiteur. Deuxième point. Il reconnaît que Jésus est innocent, qu'il n'a rien fait de mal. C'est l'agneau sans péché que les Juifs devaient apporter au temple pour le sacrifice. Isaac, Joseph et tous ces sacrifices dans le temple, tous ces sacrifices sans défaut dans le temple, sont autant de préfigurations de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et son sacrifice, dont le peuple d'Israël était pétri durant des centaines d'années et des centaines d'années, ils étaient prêts pour cela. Et cela, le brigand repentant, lui, l'avait saisi. Troisième point. Il reconnaît que Jésus est roi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il était très loin de se moquer de Jésus comme les autres soldats le faisaient, avec l'inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». Quand viendras-tu dans ton règne? Quand le règne de Jésus devait-il commencer? Seulement 3 jours plus tard. Nous sommes dans le temps du règne de notre Seigneur. Dernier point. La conséquence d'une crucifixion, c'est la mort. Il n'y a aucune échappatoire. Et cela, le brigand le savait. Et pourtant, il avait compris que la mort de Jésus ne serait pas un frein à son règne. D'une manière qu'il n'aurait pas su expliquer, il avait compris que la mort de Jésus ne serait pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand, le règne de Christ. Et c'est aujourd'hui le règne de Christ, n'est-ce pas? En Éphésiens chapitre 2, un gros passage, des versets 1 à 8, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Nous ne méritions que la mort. Nous ne méritions que de payer. Nous devions payer cette amende. Nous devions la payer. Et il nous a été fait grâce. C'est par grâce que le pécheur, le brigand que je suis, le chauffard que je suis sauvé. C'est par grâce que le pécheur ou la pécheresse ou le brigand ou la brigand que vous êtes, êtes sauvé. Je ne veux pas faire de sentimentalisme, Mais cette vérité doit être intense dans notre vie. Comme ce brigand sur la croix, les pécheurs pardonnés ont cette espérance d'entendre Jésus leur dire « Amen, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Est-ce une vérité intense dans votre vie aujourd'hui? C'est la notre espérance, ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Et encore, je le répète, c'est une vérité qui, je l'espère, fait une grande différence dans nos vies et dans vos vies. Et j'aimerais terminer par ce chant qu'a lu Pierre-André. C'était une bonne introduction et une belle conclusion, je trouve. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi, par son sang, il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Amen.